Interview.
Bonjour, je suis en compagnie d'Alain Chaffel qui a donné le 24 mai une conférence extrêmement intéressante, ceci étant mon opinion, qui n'engage que la personne qui émet cette opinion, sur l'interminable conflit israélo-palestinien depuis 1848. Et donc, pour vous inviter à découvrir cette conférence qui, je crois, est extrêmement claire, en tous les cas, qui a, je dis bien entre guillemets, séduit près d'une cinquantaine de personnes le 24 mai, eh bien, je vais rencontrer une deuxième fois, en l'occurrence Alain Chaffel, puisque nous avions déjà eu l'occasion d'échanger suite à la première conférence qu'il avait donnée lors de la saison 2018-2019, qui portait sur les totalitarismes. Donc, mon cher Alain, ravi de te revoir en face de moi, c'est toujours un vrai plaisir. J'ai envie d'attaquer par une question qui fait peut-être écho à l'entretien qu'on avait eu précédemment. Je ne sais pas si on est historien, on le devient nécessairement. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un peu l'itinéraire qui t'a amené justement à l'histoire, et si tant est qu'il y ait eu un événement qui ait marqué de manière particulière ta vie intellectuelle qui t'ait emmené dans cette direction.
Bah, inconsciemment, en tous les cas, c'est ma famille, c'est la politique. J'étais dans une famille très engagée politiquement, communiste, dans les années 50, 60, 70. Et l'histoire est essentielle, comme la philosophie d'ailleurs, dans les milieux communistes. Je crois que même si ce n'était pas clair dans mon esprit, bien sûr, c'est cette influence, la politique, comprendre l'histoire. À l'époque, on pensait que l'histoire avait un sens, qu'il y avait un sens au bout, un sens forcément positif. Et c'est ça, je crois, qui m'a poussé dans cette voie. Voilà.
Ça veut dire que tu es un élève qui s'intéresse à tout, parce qu'il y a toujours un itinéraire, en commençant général vers la primaire. On part au collège, on passe au lycée. Excellent élève, quelque chose qui... Est-ce qu'il y a quelque... Je reviens sur cette histoire de l'itinéraire, de l'histoire tout de suite, de l'histoire après coup, comment ça se passe ?
L'histoire après coup, je ne vais pas raconter une trajectoire glorieuse, ça serait complètement faux. L'histoire, c'est venu... D'abord, ce qui compte, c'est le milieu familial, bien sûr. J'étais dans un milieu qui était intéressé par la politique, donc par l'histoire. J'ai eu la chance aussi d'avoir un très bon professeur de français quand j'étais au lycée, Jacques Spies, que j'ai eu 2 années, qui était quelqu'un de qui poussait à la curiosité, qui poussait à la réflexion. Et puis je me suis intéressé, parce que c'est lié, je crois, à l'histoire, parce que j'ai eu 2 professeurs qui m'ont intéressé, un autre surtout, dont j'ai oublié le nom, hélas, avec l'âge. Et puis tout ça a fait que l'histoire m'a intéressé, voilà. Alors, a priori, j'étais sans doute pas fait pour ça. J'aurais pu faire d'autres études. À une époque, je voulais être prof de gym. À une autre époque, j'aurais fait des études de... Je serais bien allé vers des études de médecine. Enfin bref, peu importe. Je suis allé dans cette direction. Et je ne le regrette pas parce que j'étais évidemment très ignorant. Enfin, évidemment, moi, j'étais très ignorant. Et finalement, l'histoire... ça force à réfléchir, même si on n'a pas envie de réfléchir, en faisant de l'histoire, on réfléchit obligatoirement. Donc j'ai découvert évidemment beaucoup de choses, j'ai découvert, ce qui est banal de le dire, tout ce que je ne savais pas, ce qui est forcément immense. Je ne regrette pas ce choix qui n'était pas écrit d'avance au fond. Voilà.
Donc il y a cette trajectoire qui se dessine progressivement, et est-ce qu'il y a un ouvrage qui d'un seul coup... ou un auteur, un historien en l'occurrence peut-être, ou même d'ailleurs en dehors de l'histoire, peut-être un roman, on pourrait dire Docteur Jivago pour être effectivement une manière d'envisager l'histoire. Est-ce qu'il y a un auteur, peut-être, ou un historien, donc, comme je viens de le dire, qui soit porteur justement de cette mise en forme d'un désir que tu imaginais ou que tu n'imaginais pas, peut-être quelque chose qui, d'un seul coup, te dit oui, l'histoire, c'est vraiment une voie dans laquelle j'ai envie d'approfondir et j'ai envie d'aller.
Non, je ne crois pas qu'il y ait d'auteur particulier. Il y a des auteurs qui m'ont influencé, que j'aimais énormément, là aussi, strictement rien d'original. Zola, Stendhal, Dostoïevski, voilà, tout à fait passionnant. Et puis, si je veux rester, quand je parle de mon adolescence, si je veux parler des historiens qui m'ont marqué, ben, il y en a plusieurs au cours de ma formation. Georges Duby, Le Goff, Mandrou, pour parler des plus anciens. Je ne vais pas te citer évidemment tous les historiens qui m'ont marqué. À propos du communisme, puisque j'avais fait ma thèse sur le communisme, j'étais en train de la terminer, l'ouvrage de François Furet, Le passé d'une illusion, mais aussi Annie Krigel. Je ne vais pas citer tous les auteurs, mais encore un historien qui m'a profondément marqué, grand historien qui vit toujours, Michel Vinocq. Je crois qu'il a publié la biographie de Madame de Staël il y a une dizaine d'années, c'est assez récent, mais c'est un ouvrage tout à fait majeur qui m'a relancé encore sur le plaisir de lire et de faire de l'histoire. Voilà, mais évidemment, comme je lis beaucoup d'histoire et de géopolitique, je ne peux pas tous citer tout le monde, ne serait-ce que les 100 derniers, voilà.
Tu cites Dostoïevski, Zola, ça veut dire que les romanciers sont aussi porteurs d'histoire.
Pour moi, dans les bons romanciers, il y a cette dimension, mais ce n'est pas une obligation, c'est ce que j'aime après tout, voilà. Et c'est vrai que Zola, Stendhal, Dostoïevski, c'est des gens qui m'ont formé énormément. Je pense à quelqu'un d'autre aussi que j'avais dévoré quand j'avais 15-16 ans, c'est Roger Martin Dugard. Voilà, Roger Martin Dugard, on en parle peu aujourd'hui, mais vraiment c'est un auteur, Jean Barois et puis les Thibault, cette saga des Thibault, voilà, ça fait partie des œuvres romanesques qui ont joué un grand rôle dans ma formation.
Que penses-tu de ce qu'est l'histoire aujourd'hui? Je parle enseigner, l'enseignement de l'histoire. Qu'est-ce qu'on dit de l'histoire aujourd'hui? Comment vois-tu, si tu en as connaissance, de comment c'est diffusé au sein du collège et du lycée, et quel est ton sentiment là-dessus par rapport à une expérience antérieure?
Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme expérience d'enseignement? J'ai enseigné 4 années en collège, après j'ai enseigné, 20-25 ans, une vingtaine d'années en lycée, et puis ensuite en classe préparatoire. Et puis j'avais enseigné une dizaine d'années également à la fac, là en tant que vacataire. Donc j'ai vu plusieurs niveaux d'enseignement. Moi je crois que au fond, quel que soit le niveau, ça ne change pas énormément, je crois. Mais peut-être que je suis un infâme rétrograde. Je crois qu'il faut d'abord bien maîtriser son sujet. On raconte une histoire, le récit reste important. Alors à une époque, dans les années 70-80, la thématique était centrale, il fallait partir des documents, mais en général les élèves étaient perdus, sauf les très bons. Donc je crois toujours à l'histoire qui démontre, à l'histoire récit, à l'histoire problématisée. Je trouve que c'est un peu vaniteux, problématisée. Je dirais l'histoire qui a un fil directeur, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale entre le niveau d'enseignement. Il faut connaître son sujet et puis ensuite il faut savoir le transmettre. Alors je ne sais pas comment on s'y prend aujourd'hui, bien sûr, ça fait 5-6 ans que je ne travaille plus, mais j'imagine que le professeur, quel que soit le niveau d'enseignement, a toujours un rôle essentiel, il doit rester quand même quelque part un modèle qui transmet, qui éveille à la curiosité, qui respecte bien sûr son public, avec le souci de le faire progresser. Voilà, j'ai l'impression que c'est extrêmement banal ce que je dis là, mais enfin bref, c'est comme ça que je le vis, que je le ressens.
Deux échos par rapport à ça, une qui est très très une expérience personnelle et très très minime, qui est que des personnages dans ma vision de l'histoire, avec des personnages comme Clovis et Bernard Palissy, avaient énormément d'importance, puisque ça apparaissait dans les manuels scolaires, en l'occurrence au niveau du primaire, dans les années 50-60. Chose qui, à mon avis, Bernard Palissy a complètement disparu des manuels scolaires, même en primaire. Il y a souvent une polémique sur la chronologie, achronologie de l'histoire. On considérait que l'histoire était souvent présentée aux élèves de manière achronologique. Ton sentiment sur cette notion, est-ce qu'il y a une nécessité absolument à la chronologie? Ou est-ce qu'on peut sortir d'une chronologie de l'histoire en créant des parallèles ou des effets de miroir?
Bon, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire et de la façon dont on enseigne l'histoire sur un plan historique. Ce que je peux dire quand même, c'est que la chronologie reste essentielle pour comprendre un phénomène. Quand on s'adresse à un public qui ne connaît pas un sujet, la problématique, évidemment, est la chronologie est centrale. Après, quand on s'adresse à des spécialistes, évidemment, des gens dont c'est la profession d'être historien, il peut y avoir d'autres approches transversales, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Mais pour faire découvrir quelque chose, il faut quand même une trame. Alors après, il faut la choisir. Quelle trame? À l'époque de la vie, c'était une trame politique. Aujourd'hui, on sait très bien que c'était la trame des grands hommes. Eh bien, on peut construire une trame à partir toujours les grands hommes, la politique, mais aussi l'économie, la sociologie, et puis toutes les catégories sociales, toutes les couches sociales plus ou moins modestes, et puis les grands enjeux des rapports de force internationaux, la géopolitique. On peut complexifier les choses, mais tout ça dans un cadre structuré et qui s'appuie toujours sur la chronologie, si on doit étudier une quarantaine d'années, par exemple, si on doit étudier les rapports, je ne sais pas, entre la France et les États-Unis de 1945 à 1990 ou 91, la chronologie, bien sûr, restera essentielle. Ce qui n'empêche pas d'aborder tous les thèmes que l'on a envie d'aborder, et chaque fois en s'adaptant au niveau du public. Voilà.
Par rapport à à cette réflexion, je me dis que l'histoire est extrêmement contemporaine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que l'histoire est un phénomène passé. J'ai l'impression, en tous les cas, c'est une idée que j'ai, c'est qu'elle est extrêmement présente dans nos vies. S'il suffit qu'on la suive, on arrive à travers, par exemple, la conférence que tu as faite, on s'aperçoit qu'il y a une vraie cohérence et qu'on arrive aujourd'hui à se dire. Ça crée une prospective. Se dit voilà, on est dans une situation et que ça nous permet d'envisager une évolution, qu'elle soit positive, négative. Dans tous les cas, il y a un effet de prospective. La place de l'histoire, de mon point de vue, mais peut-être j'en suis loin et trop éloigné pour en parler, mais je me permets cette hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sciences qui auraient tendance à prédominer. C'est-à-dire comme si l'histoire était un fait passé, une histoire froide, au sens large, et qu'elle n'aurait plus grande utilité dans nos sociétés contemporaines. Est-ce que l'histoire, de ton point de vue, est-ce qu'elle a une place dans notre histoire contemporaine et donc, par une occasion, je parle d'ici et maintenant, et dans notre futur?
D'abord, on pose toujours à l'histoire les questions du présent. On ne pose pas les mêmes questions concernant la révolution russe en 1925 qu'en 2019. Idem pour la révolution française. On pose toujours en fonction du présent. Deuxièmement, est-ce que l'histoire a une utilité? Beaucoup d'historiens spécialistes sont appelés dans la presse écrite, dans les médias, pour donner leur point de vue, leurs analyses, quel que soit le thème abordé d'ailleurs, que ce soit au niveau des rapports internationaux, de la construction de l'Europe, ou au moment des Gilets jaunes, enfin on pourrait prendre 36 exemples, les historiens n'ont pas du tout, ne sont pas du tout en dehors de la cité, ils comptent toujours. Simplement, il est clair que la science molle, puisqu'on parle de science molle et de science dure, et là on est dans des sciences non dures, la science qui a pris le dessus, incontestablement, depuis plusieurs années, c'est l'économie. Les économistes ont pendant des décennies eu le vent en poupe parce qu'ils aménagent en grande partie notre vie quotidienne. Mais on voit bien qu'au niveau des économistes, il y a des divisions, il y a des divergences, et on voit bien que cette science prétendument exacte, elle ne marche pas toujours, ce qui pose un vrai problème. Et il y a plusieurs courants au niveau de l'économie. Et sur ce plan-là, l'histoire, la philosophie joue un rôle tout à fait décisif pour prendre du recul, pour prendre du champ, pour analyser, montrer la complexité des rapports sociaux avec une perspective historique, une analyse, de même d'ailleurs que la sociologie. Donc pour répondre à la question, l'histoire est essentielle. Simplement, on peut instrumentaliser l'histoire, ce que l'on fait à longueur de temps. On l'a bien vu dans l'affaire des Gilets jaunes. Chacun prenait la référence historique qui l'intéressait dans sa démarche politique du présent. On peut l'instrumentaliser, mais néanmoins, elle est évidemment essentielle. On ne peut pas travailler sans connaître son passé, sans avoir de recul sur son histoire.
Justement, tu précèdes la question que j'allais poser sur les Gilets jaunes et la revendication, en tous les cas, l'identification à 1789 comme le mode de référence du rapport du peuple au pouvoir, d'une certaine manière. Quel est ton sentiment? Quel était ton renseignement? Est-ce qu'on peut en parler au présent ou au passé? Ou est-ce qu'on doit en parler au futur? Parce que ce mouvement, à mon avis, n'est pas totalement mort, puisque même si on en voit peu les traces en ce moment, je crois qu'il est toujours sous-jacent.
Alors, c'est toujours difficile de répondre, parce que quand un homme politique ou une femme politique, fait référence au passé pour expliquer les Gilets jaunes, ça en dit plus sur son comportement politique à lui, dans le temps présent, que sur la référence au passé. Si un homme politique, par exemple comme Mélenchon, fait référence à la Révolution française, on comprend bien dans quelle histoire il veut s'inscrire. Il est dans une sorte de mythologie de la Révolution, Robespierre, de la même façon que quand il a fait le parallèle entre Drouet des Gilets jaunes et Drouet de la fuite du roi à Varennes. Donc c'est difficile parce que chacun veut instrumentaliser et chacun, même honnêtement, sans vouloir instrumentaliser, peut utiliser des références historiques diverses. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai eu tendance, en sachant qu'il n'y a pas de copier-coller en histoire, ça serait évidemment trop simple, moi j'avais plutôt tendance à comparer ça aux années 30, où il y avait, on voyait bien en Allemagne au début des années 30 ou à la fin des années 20 en France, deux forces qui s'opposaient, c'est-à-dire la force communiste et l'extrême droite, mais qui en même temps avaient un ennemi central, c'était le pouvoir. C'était par exemple en Allemagne la social-démocratie allemande. Et là, il y avait, j'ai trouvé qu'il y avait un certain parallèle entre d'un côté l'extrême gauche et d'un autre côté l'extrême droite, contre évidemment le pouvoir qualifié d'élite, etc., la haine du compromis, la haine par exemple de la social-démocratie, etc. Moi j'aurais fait plutôt ce parallèle, mais en sachant que évidemment le monde a profondément changé et que le copier-coller, je le répète, n'existe pas. Donc il faut toujours rester extrêmement prudent dans ce type de comparaison.
Dans un autre domaine, d'une manière parallèle, pourquoi les forces politiques, gouvernement et parti peut-être en général, chose qui était vraie, je crois, enfin peut-être que tu me contrediras à l'époque du communisme en particulier, pourquoi on ne s'appuie pas sur la réflexion des intellectuels? Il y a dans tout un tas de domaines, il y a plein d'intellectuels qui produisent des idées. Tu faisais référence à nombre de tribunes qui paraissent dans la presse ou à la radio, de nombre d'intellectuels qui sont invités. Et quand on les entend, on se dit ces gens-là ne possèdent certainement pas la totalité d'une solution, mais en tous les cas, ils offrent des pistes de réflexion intéressantes qui pourraient être, je dirais, poursuivies et approfondies. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de désintérêt, peut-être le pouvoir actuel, peut-être que d'autres d'ailleurs, montre une sorte de condescendance pour l'intellectualisme, entre guillemets, et quand je dis ça, je le prends sous le mauvais aspect, je pense que le monde intellectuel est très important, en tous les cas il m'apparaît comme très important. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une sorte de dédain pour le monde de l'université au sens large, simplement de la pensée, de la réflexion?
Je n'y crois pas, parce que au fond, les intellectuels ont droit de citer. Quand on lit Le Monde, par exemple, régulièrement, des intellectuels, en clair des universitaires, par le public, etc. Donc je ne crois pas. Simplement, chaque courant politique a ses intellectuels, entre guillemets, de choix, si je puis dire. La droite, la gauche, la diversité des droites, la diversité des gauches ne font pas appel aux mêmes références intellectuelles, ce qui n'est pas original, ça, rien de nouveau, ça s'est toujours passé comme ça. Alors peut-être que tu fais référence à l'intellectuel qui est né au moment de l'affaire Dreyfus, qui dénonce, qui propose, qui lance des pétitions. Alors ça, effectivement, il y a toujours des pétitions avec des intellectuels de renom et des artistes de renom, entre autres, et ça a beaucoup moins d'impact. Mais je crois que l'impact des intellectuels est incontestable. Alors, là où il y a peut-être un problème, c'est au niveau de ces médias qui passent en boucle en permanence. Là, je crois que c'est un vrai problème, où on a toujours les mêmes têtes, avec parfois des intellectuels bons de qualité, mais souvent des intellectuels proclamés, qui ne sont pas forcément les spécialistes capables d'intervenir sur le sujet en question. Et c'est plutôt à ce niveau-là, me semble-t-il, qu'il y a un vrai problème. Quelle est la place des intellectuels dans les médias grand public, c'est-à-dire ceux qui passent en boucle, au fond, en permanence. Voilà. Mais dire que les intellectuels, on ne les écoute pas, ils sont méprisés, non. Simplement, ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a un siècle. Voilà. Donc, ils s'expriment dans une plus grande diversité.
Je ne parlais pas nécessairement de mépris, je parlais d'un lieu où, effectivement, il pourrait y avoir échange de manière transversale sur des sujets très divers. On parlait de l'économie, on parlait de l'histoire. Faire apparaître des lignes de force, des choses qui seraient des lignes, enfin, envisager des possibles. Juste par rapport à ce que tu viens de dire au niveau de la presse, qui est effectivement un sentiment que je partage, mais ce n'est pas parce que je le partage qu'il est bon. Il est simplement de se dire, effectivement, est-ce que tu le disais, est-ce qu'on n'est pas effectivement dans une société de l'émotion? Je pense que je ne révèle rien en disant ça, parce que je crois que c'est partagé par plein de gens, et que la raison, à travers ce qu'on en vient d'évoquer, à travers l'histoire, à travers tout un tas de sujets qui sont des sujets qu'il faut penser un tant soit peu. Et est-ce qu'on n'est pas justement livré en permanence à travers les chaînes que tu es en train, non pas dénoncer, mais que tu es en train de mettre en exergue? Justement, on est en permanence dans cette société de l'émotion, de l'instantanéité, de la transformation permanente de l'information, d'un nombre de morts qui évolue, qui est dans un sens comme dans l'autre, une information qui n'arrive pas à prendre forme de manière définitive et qui évolue pratiquement de quart d'heure en quart d'heure. Et les gens sont livrés à une sorte d'émotion, hein, qui fait qu'on est dans une attente d'une nouveauté. Est-ce que justement cette forme d'information-là éloigne de plus en plus de gens d'une manière de penser, de prendre du retrait par rapport à l'information?
Il y a toujours eu de l'émotion. Les gens ont toujours fait des choix politiques. En gros, sont toujours allés voter en réfléchissant, en faisant attention. On ne peut pas dire que l'émotion débarque aujourd'hui, rien de nouveau. Simplement, c'est comment et pourquoi. Alors, au fond, dans ta question, on en arrive toujours au vieux débat, c'était mieux avant, hein, et maintenant c'est moins bien. Je ne crois pas du tout. Les gens fonctionnaient avec leurs émotions il y a 50, 60, 70 ans. À l'époque, par exemple, du fascisme triomphant, il y avait beaucoup d'émotions. À l'époque du communisme triomphant, lorsque le Parti communiste était à 25-28% des voix, il y avait énormément d'émotions, puisque les gens étaient soudés dans une forme de contre-culture, avec un modèle merveilleux, le paradis sur terre en Union soviétique. Alors simplement, et puis on trouvait l'émotion de l'autre bord, hein, à l'époque de la guerre d'Algérie, chaque camp était extrêmement divisé, partisan ou adversaire, OAS ou non, même au sein du FLN, entre le FLN et le MNA, c'était la guerre. Donc je crois qu'on pourrait indéfiniment parler des émotions. Simplement, on est dans une société, c'est bien connu, plus individualiste, plus nombrilienne, avec les réseaux sociaux qui amplifie tout ça, mais et qui crée des petites chapelles qui ne communiquent que qu'entre elles. Il est clair que ça modifie la donne. Mais là aussi, l'essor des médias a toujours modifié la donne. Par exemple, si je prends l'exemple de la guerre de Corée, 50-53, de la guerre d'Indochine, qui s'est terminée pour nous en 54. C'est des guerres dont on parlait finalement assez peu, à l'époque parce qu'il n'y avait pas la télévision en direct. À partir du moment où il y a eu la télévision en direct, c'est au moment de la guerre du Vietnam, ça, l'émotion par rapport à la guerre a été considérable et les retombées politiques ont été considérables. Et puis ensuite, évidemment, ça n'a fait que s'amplifier. Mais bon, j'avoue que j'ai de la peine de répondre de façon tranchée à cette question. Il y a toujours de l'émotion, elle s'exprime différemment. On ne croit plus aux grands phénomènes de société. Le communisme a disparu, enfin, en gros, disparu. Les églises, je parle dans le monde occidental, ont beaucoup moins d'importance. L'individu a pris une place considérable avec chacun sur son rail. Ça, ça a changé. Et ce qui complique d'ailleurs le travail du politique. Comment fournir une réponse structurée à des éléments aussi fracturés? Vrai problème incontestablement. Voilà. Mais pour les émotions, elles restent, il y en avait, il y en a toujours, bien sûr.
Une traduction peut-être plus nette de ce que je disais, mais je partage en partie ton opinion, bien entendu, c'est ce qui court un petit peu dans notre société, c'est le fait qu'on ne fasse pas de différence entre une opinion et un fait. C'est-à-dire que les gens peuvent nous répondre, tout simplement, c'est votre opinion, faisant fi du fait. C'est un peu bon, c'est une vision, une interprétation des choses. Il me semble, mais je peux me tromper, il me semble que cette chose-là était moins vraie auparavant. Et à nouveau, je considère que l'erreur est humaine et que je suis peut-être en train d'en commettre une. Est-ce que ce n'est pas le cas? On voit bien aussi que ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui ont quand même pourri un certain nombre et pourrissent de manière par les réseaux sociaux ou par la télévision. Je prends par exemple l'exemple du Brexit qui a emmené l'Angleterre à voter pour la désunion avec l'Union européenne sur des contre-vérités flagrantes qui ont été dénoncées après coup et qui font d'ailleurs, ne changent strictement rien d'ailleurs à la nouvelle donne puisque le parti des séparatistes a gagné les élections européennes. Donc il est assez étrange quand même que ce que je voulais dire, c'est faire apparaître, peut-être maladroitement, certainement, le fait que l'émotion qui doit être et qui est prédominante, nous sommes tous des êtres des émotions, mais que l'émotion est prédominante par rapport à la raison et que même quand on aura démontré qu'il y a un certain nombre de mensonges qui ont été proférés, ça ne fera pas changer d'orientation un certain nombre de personnes. C'est ça qui me surprend dans la société peut-être dans laquelle on vit aujourd'hui.
Ben là aussi, rien de nouveau. Alors là, il faudrait faire appel à un spécialiste de l'histoire des émotions, mais la grande peur au moment de la Révolution française, c'est une gigantesque émotion. Simplement, il n'y avait pas Internet, ça a mis du temps à se diffuser. Les fausses nouvelles, il y a tout. Là aussi, c'est un classique. L'affaire Dreyfus, c'est l'exemple type de la fausse nouvelle, hein, puisqu'il était innocent. Au moment du Front populaire, Salingro, fausse nouvelle, il n'aurait pas voulu se battre pendant la guerre, il est allé jusqu'au suicide, fausse nouvelle, c'est pas nouveau. Énorme répercussion politique. Autre exemple, on pourrait les multiplier, Maurice Thorez, au milieu des années 50, expliquait gravement qu'on assistait à une paupérisation absolue de la classe ouvrière, alors que son pouvoir d'achat augmentait en gros de 4 ou 5% par an. Bref, rien de nouveau au niveau des fausses nouvelles. Voilà. Sans parler des fausses nouvelles au moment de la guerre de 14-18, et c'est ainsi qu'était né d'ailleurs le canard enchaîné. Donc là aussi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de central, de tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le rythme. C'est Internet, c'est la vitesse à laquelle ça peut se propager, ou ce type de croyances totalement farfelues, parce que beaucoup sont farfelues, d'autres sont haineuses et dangereuses, bien sûr. C'est le rythme. Et c'est peut-être, comme il y a énormément de médias, c'est la publicité que l'on fait à ces fausses nouvelles, bien sûr. Mais c'est l'intensité, voilà, qui peut amplifier grâce à la technique. Mais l'intensité au moment de la grande peur de la Révolution, elle était là, hein, incontestablement.
La question reste ouverte. Dernier sujet, peut-être avant de nous séparer, j'aimerais avoir ton sentiment sur un vaste continent et un vaste sujet, donc par le fait. C'est l'Europe. On en parle beaucoup, on en parle peu, on en parle peut-être plus sur cette élection. D'ailleurs, le pourcentage de votants était plus important. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation plus importante. Sur quels critères, on ne sait pas. Est-ce que c'est la montée de l'extrême droite? Est-ce que c'est sur des sujets véritablement européens? Je dirais la vision de l'historien, je dirais l'avant-guerre, l'après-guerre. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait l'Europe? Et qu'est-ce qui doit la faire? Peut-être aussi un peu une vision prospective.
Alors, cette idée de l'Europe, évidemment, elle n'est pas née uniquement après la Deuxième Guerre mondiale. Victor Hugo, déjà, en avait parlé. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, c'était également un sujet. Et puis après, bon, il y a eu le nazisme, il y a eu la guerre. Et donc, cette idée est revenue sur le terrain après 1945. D'où des débats, est-ce qu'on commence par l'économie, jusqu'où va-t-on aller, on a voulu créer une Europe de la défense, ça n'a pas marché, De Gaulle y était opposé, ainsi que les communistes en 52-54. Mais en tous les cas, cette création de l'Europe, qu'on appelait la CE à partir de 1957, et qui a vraiment s'est mis en place à partir de 58, sur le fond, je trouve que c'est une excellente idée. On sortait de la guerre, arrivait à s'entendre, dépasser des clivages, bien sûr, c'est une bonne idée. Après, il ne faut pas être naïf non plus, il y a toujours des rapports de force. Mais sans être naïf, vouloir construire un espace européen, alors qu'on a vu quand même deux guerres civiles en Europe, la Première Guerre mondiale et la Deuxième, elles avaient complètement ruiné l'Europe. On s'était fait la guerre entre Européens. L'idée était très bonne. Après, la grande question, bien sûr, c'est jusqu'où peut-on élargir ce qui s'appelle désormais l'Union européenne ? Comment organiser cet ensemble ? De quelle façon ? Est-ce qu'il y a des groupes privilégiés ? Énorme débat. Mais en tous les cas, sur le fond, c'est une bonne idée. Ce qu'il faut régler, quand même, me semble-t-il, c'est le débat sur le budget européen. 1% du PIB, ce qui est dérisoire, si on veut avoir une véritable politique européenne. Ce qu'il faudra régler, c'est la facilité du vote sur certains sujets, et en particulier sur la fiscalité. Il faut l'unanimité, ce qui bloque toute avancée. Et du coup, on se focalise sur cet échec en matière de fiscalité, alors qu'il y a beaucoup d'avancées européennes dans plusieurs domaines. Et puis après, est-ce qu'on doit construire une véritable politique étrangère commune en Europe ? Est-ce qu'on doit construire une véritable Rome de la défense ? Ça reste des sujets qu'on ne peut pas balayer comme ça, même si c'est compliqué, parce qu'on a affaire à la position des États-Unis qui se dégage, qui nous ont protégés pendant longtemps, mais qui ne se dégage pas depuis Trump. Déjà, Obama avait pris ses distances, et puis c'est assez logique. On a quand même la montée en puissance de la Chine. La Russie, nos rapports sont mauvais. Ça pose également un rapport de relations internationales, de géopolitique. Et là, il faudrait, mais c'est peut-être un rêve, il faudrait que les Européens arrivent à trouver un débat possible sur ce thème-là. Alors aujourd'hui, il y a un retour à l'idée de frontières, de nations. Mais on sait qu'évidemment, c'est un retour dangereux. Et puis reste l'Europe, si on veut, en matière d'écologie, ou de justice sociale, les deux sont liés, avoir quelque chose de solide qui tienne la route. On est 500 millions en Europe, ensemble c'est la première économie du monde, si on met tous les pays ensemble, on a les moyens là de bâtir quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être un projet, qui peut être un modèle, parce que l'Europe est déjà une sorte de modèle, même s'il est critiqué. Donc là, à mon avis, il y a des potentialités. Ça reste aux Européens de choisir, et visiblement, on l'a vu aux dernières élections, c'est loin d'être particulièrement simple.
Pour finir, je vais peut-être demander simplement ton assentiment. Comme le disait très bien Michel Serres, qui est mort il y a une dizaine de jours maintenant, se rend-on compte qu'évidemment, nous avons vécu 70 ans sans guerre, chose qui n'avait jamais existé quasiment sur le continent européen, mais je crois que sur l'ensemble de la planète depuis l'origine. Penses-tu que globalement les sociétés, je ne parle pas uniquement de la France, mais des sociétés européennes et peut-être mondialement, mondialement c'est un peu différent puisqu'il y a de nombreux conflits quand même qui se font jour et qui continuent, puisque celui qui relatait depuis 48 au Moyen-Orient, est-ce que tu penses, en France tout simplement peut-être et en Europe, est-ce que tu penses que les gens sont conscients de la chance qu'ils ont ? Je précise, au-delà des difficultés qu'ils peuvent vivre au quotidien pour certains.
Je ne peux pas répondre à la place des gens. Moi, en tant qu'historien de formation, je mesure évidemment cette chance incroyable de ne pas avoir de guerre. En plus, ça, je suis une génération qui n'a pas fait la guerre d'Algérie, parce qu'on a eu des guerres, mais pas en Europe. Mais je serais né 3-4 ans plus tôt, j'aurais connu la guerre d'Algérie en tant qu'appelé. Donc moi, personnellement, je mesure évidemment cette chance. Il ne faut pas perdre de vue que l'Europe a quand même mené des guerres en dehors de son territoire. Hein. Je parlais de l'Algérie, il y a l'Indochine, et puis on est allé en Irak, on est allé avec les Américains, on est allé en Libye, bref. On a mené des guerres. On a participé du moins à des guerres. Mais c'est vrai que pour les Européens, c'est une chance. Alors après, c'est comme tous les acquis. Une fois qu'on a un acquis, on trouve qu'il est légitime, que ça va de soi. Voilà. Or, la paix ne va pas de soi. Ce qui complique aussi les choses, c'est qu'effectivement, il y a une montée des inégalités sociales bien connues, même étudiées, observées par le FMI, et sans parler des ouvrages de Piketty ou de Zucman. Mais en tous les cas, il est clair que si on veut construire une Europe correctement, concrètement, il faut qu'en matière d'inégalité, me semble-t-il, les choses s'améliorent parce que on croit à un projet si on s'aperçoit qu'il a du sens pour la collectivité. Mais c'est difficile de croire à un projet quand on se dit qu'on est sur le bord du chemin, que d'autres en profitent beaucoup plus, que d'autres, évidemment, vivent quasiment un monde merveilleux. Et là, ça casse le sens. Moi, je crois que le sens de l'Europe et la compréhension qu'on a connu une bonne période et qu'il faudrait améliorer les choses, on ne retrouvera pas, on ne revient jamais en arrière, on ne retrouvera pas les 30 Glorieuses parce que le contexte a changé. Mais donc il faut penser construire, c'est ça qui compte, mais il faut construire sur des bases, me semble-t-il, avec plus d'égalité et puis en associant égalité, bien sûr, et puis problème écologique. Voilà.
Bien, c'est sur quelques mots que nous allons nous séparer. Je vous signale à titre d'information, même si ça paraît bien loin, que vous aurez, si vous le souhaitez, l'occasion de rencontrer et d'écouter Alain Chaffel. Ce sera le 5 juin 2020 et il viendra nous parler de ce continent qui émerge, parce que la Chine, en tant que telle, est quasiment un continent, un immense géant. Et il viendra nous parler de la Chine et de la manière dont elle travaille de manière efficace, je pense, efficace pour elle en tous les cas. On verra si c'est une efficacité qui bénéficie à tous. Merci de votre attention et n'hésitez pas à aller écouter la conférence d'Alain Chaffel sur l'interminable conflit israélo-palestinien. À bientôt, au revoir.
Interview. Okay, the bird. L'interview du jour.